Ce texte commencera par une petite mise en garde aux donneurs de leçons, aux attitudes snobinardes. Ceux qui pensent que mon combat est dépassé, illégitime, abusif ou infondé. Ceux qui me taxeront de misérabilis parano. Ceux qui ne comprennent ni ma musique, ni mes mots. Sachez que je n'excuse ni votre ignorance, ni l'histoire colonialiste de notre douce France. Mon daron m'a dit, si fiston t'es pas chez toi, fais-toi tout petit mon petit, en gros tais-toi. La France nous aime pas parce que nous sommes différents. Pas facile à comprendre pour un monde de 6 ans d'accepter de faire sa vie dans une soute à bagages. Parce que ses ancêtres en ont eu marre d'être des esclaves. Comme personne n'a jugé bon, gardez ça en mémoire. Alors j'ai pas vu mon grand-père dans les livres d'histoire. J'ai pas vu en Indochine les viols et les pillages. Dans les dom-toms, les massacres et l'esclavage. Évaporer les douleurs et les souffrances. Les tortures en Algérie, tout le monde s'en balance. Les tirailleurs sénégalais, tout le monde s'en balance. Et qui est-ce qui morfe? C'est leur descendance. J'accuse l'école de cultiver l'ignorance dans la censure, la haine dans la dissimulation de son passé, de ses blessures. On m'a rabâché des trucs comme démocratie, liberté, droit de vote, fraternité, égalité. Et personne n'a été fichu de me dire qui j'étais, de me dire ce que je foutais là, tout frisé, tout bronzé. De me dire pourquoi mon nom de famille était écorché, pourquoi certains enfants n'avaient pas le droit de me parler. Bienvenue au pays des droits de l'homme, de l'exclusion, de l'exception culturelle, des discriminations. Là où on entasse les arabes et les noirs comme de sales vulgaires souris de laboratoire. Au royaume de la manipulation et du silence. Ça te parle de mixité, de mélange, d'échange et de différence. De tolérance, laïcité pour se donner bonne conscience. Alors que la haine raciale sévit dans la plus grande indifférence. Franchement, tu veux savoir ce que j'en pense et qu'elle est belle. Elle est belle la France.
La France, avec son cortège d'indécence, ces criminels de la petite enfance qui siègent dans les hautes instances, ces ministres en vacances quand suffoque la vieille France. Papy ne fait plus de la résistance, il meurt de chaleur en silence, dans la plus grande indifférence, celle de ses enfants, celle de son voisin d'en face. Elle regarde ses familles africaines entassées dans des cages à poules, ça prend le feu, mais c'est pas grave, c'est que des noirs, ça roule. Tout le monde s'en fout comme de l'an 40, comme du scandale du sang contaminé ou celui de l'amiante. Hey, ces clochards qui refroidissent en hiver, seul au passage, respect à l'abbé Pierre. Qui essaie de sauver les meubles. Entre nous, elle a pas fait long feu, la France en bas. Je crois qu'on peut même dire qu'elle a mangé sévère. Aux pauvres, on ne tolère pas le moindre écart. Tolérance zéro pour les ouvriers, les chômeurs et les smicards. Ils s'en sont pris plein la gueule. En plus, faudrait qu'ils la ferment. Cette bande de feignants qui ne savent que se plaindre et faire grève. À côté de ça, ces soi-disant serviteurs de l'État continuent à magouiller.
Il est 7h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
Clotilde Dumay.
Le journal international avec vous, Fabrice Legrier. Dès le début, notre dossier consacré au système de santé publique palestinien en Cisjordanie occupée, il est au bord de l'effondrement.
Oui, c'est l'alerte lancée en effet par l'ONG Physicians for Human Rights. La situation est effroyable dans les centres de santé. Pour en parler, nous rejoindrons notre correspondante Frédéric Misselin en direct de Jérusalem.
L'Iran affirme qu'un accord est sur le point d'être finalisé avec le sultanat d'Oman concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Téhéran pose ses conditions que Washington ne vienne pas entraver le processus, alors rien d'officiel pour le moment. Ormuz, qui au moment où l'on se parle reste fermé et sous contrôle iranien.
Un millier d'enfants se trouveraient toujours actuellement dans l'enclave espagnole de Ceuta.
Et la situation de ces mineurs est qualifiée d'intenable, pas assez de place pour les accueillir et ils ne sont théoriquement pas expulsables.
Et puis nous serons à Bangkok, la Thaïlande, où débute aujourd'hui la visite officielle du chef de la junte birmane devenu président.
Min Aung Hlaing, auteur du coup d'état de 2021 qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, visite au Guam pour les Birmans exilés en Thaïlande. Nous écouterons l'un d'entre eux dans quelques minutes.
Mais d'abord, donc, notre dossier consacré ce matin au système de santé publique palestinien en Cisjordanie occupée.
Système qui est au bord de l'effondrement. C'est l'ONG Physicians for Human Rights qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Les centres de santé fonctionnent seulement une ou deux fois par semaine. Les hôpitaux sont véritablement submergés et n'assurent plus que les urgences. Les médecins ne sont plus payés et il y a des pénuries de médicaments. On en parle avec vous, Frédéric Misselin, en direct de Jérusalem. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique cette situation ?
Eh bien, c'est le refus d'Israël de verser à l'autorité palestinienne le montant des taxes douanières et de la TVA sur les importations qui met le secteur de la santé en péril. C'est ce qu'analyse le rapport de Physicians for Human Rights. Israël contrôle les frontières et collecte au nom des Palestiniens des taxes. En vertu d'accords bilatéraux, elles doivent ensuite être remises à l'autorité palestinienne. Ces rentrées fiscales représentent une part importante du budget palestinien. Or, ces transferts ont été suspendus par le ministre des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui le dit clairement, il veut étrangler l'économie en Cisjordanie occupée. Et là, les conséquences sur le secteur de la santé deviennent dramatiques.
Alors Frédéric, vous vous êtes rendu à Tul Karem, où les cliniques mobiles de l'ONG Physician for Human Rights prennent le relais avec des consultations, des traitements, du matériel. Et vous avez rencontré des malades dans la détresse.
Oui, Bassem Mousli a 70 ans, il a des problèmes cardiaques, il porte un pacemaker et doit prendre quotidiennement 8 médicaments différents. Cela fait 6 mois qu'il a suspendu son traitement. Impossible de trouver les médicaments, rupture de stock, pénurie, notamment parce que le ministère de la Santé de l'autorité palestinienne est trop endetté auprès des fournisseurs pharmaceutiques. Or, sans ces comprimés, le pouls de Bassem s'accélère, il a des tremblements et parfois des pertes de connaissance.
La situation est tragique, nous en sommes réduits à mendier. Tu vas voir un tel, tu vas dans les services, tu vas voir le gouverneur. Ils te disent tous qu'il n'y a rien. Je ne blâme pas les autorités. Les fonds de compensation sont bloqués depuis des mois. Les employés ne touchent que la moitié de leur salaire.
Oui, sans argent, seulement 63% des centres de soins de santé primaire restent opérationnels, partiellement. Le médecin généraliste palestinien que vous allez entendre a préféré témoigner anonymement. L'autorité palestinienne lui doit 18 mois de salaire et il n'a plus les moyens d'aller travailler à l'hôpital qui est situé loin de chez lui.
Depuis 3 ans, nous avons réduit progressivement notre activité. De 5 jours de travail par semaine, nous sommes passés à 3, puis 2 et aucun aujourd'hui. Nous n'avons plus d'argent pour nous rendre au travail. En plus, il n'y a plus de médicaments. Qu'est-ce que je vais donner aux patients ?
Et c'est un médecin qui travaille aujourd'hui bénévolement.
Je travaille presque gratuitement. Qu'est-ce que je peux faire ? Si j'arrête de soigner les habitants de Tul Karem et si les autres médecins font la même chose, que va-t-il se passer ? Les gens vont mourir.
D'après Physicians for Human Rights, sur 1260 médicaments essentiels habituellement disponibles, 160 sont aujourd'hui complètement en rupture de stock. Environ 600 n'ont plus que quelques jours de réserve. Les patients atteints de cancer, de diabète, de maladies chroniques ont de plus en plus de mal à accéder au traitement.
Dossier signé Frédéric Misselin en direct de Jérusalem.
Israël, dont les négociations par ailleurs avec le Liban doivent se conclure aujourd'hui à Rome.
Elle porte sur l'accord cadre signé en juin et qui concerne le sud du Liban, où les affrontements se sont poursuivis ces dernières heures. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes en réponse, selon elle, à une violation du cessez-le-feu par le Hezbollah. Bilan total, un Libanais et 2 soldats israéliens tués. De quoi fragiliser, c'est pour parler de Rome. Donc, l'accord cadre prévoit le désarmement du Hezbollah ainsi que la fin des opérations militaires menées par Israël et son retrait dans le sud du Liban.
Autre négociation, l'Iran évoque un accord avec le sultanat d'Oman concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz.
Rien d'officiel. Les deux pays riverains du détroit seraient en train de travailler sur une déclaration commune. Toutefois, toute réouverture dépendra des actions de Washington. Autrement dit, que les Américains ne viennent pas entraver le processus. C'est ce qu'on indique du côté de Téhéran, qui en attendant contrôle toujours Hormuz, qui pour l'heure reste fermé, Siavosh Ghazi.
Selon Téhéran, les négociations ont avancé, notamment pour délimiter les zones nationales de chacun des deux pays. La partie sud du détroit sera contrôlée par Oman et la partie nord, la partie la plus profonde, sera contrôlée par l'Iran. Téhéran qui contrôlera également le trafic maritime et donnera une partie des taxes et des droits de passage qui sera perçu pour les navires marchands et les pétroliers à Oman. Pour l'instant, Téhéran affirme que cet accord qui sera annoncé dans les prochaines heures ou les prochains jours ne signifie pas une réouverture du détroit d'Ormuz tant que les États-Unis ne mettront pas fin au blocus des ports iraniens et au blocus du trafic maritime en direction de l'Iran. Il n'y aura pas de réouverture du détroit d'Ormuz. Donc cela signifie que le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis continue toujours et que les États-Unis devront, selon Téhéran, cesser leur blocus contre Téhéran pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz.
Siavosh Ghazi à Téhéran, et à l'instant, le Pakistan dit espérer qu'un accord sur Ormuz mène ensuite à la reprise des négociations entre l'Iran et les États-Unis.
De nouvelles frappes de part et d'autre entre la Russie et l'Ukraine dans la nuit.
Des bombardements russes ont causé la mort d'au moins 3 personnes dans les régions de Kharkiv et de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Une attaque de drones russes a aussi fait 6 blessés près de Kherson dans le sud. La Russie indique de son côté avoir abattu près de 600 drones ukrainiens.
La situation des enfants à Ceuta est intenable. Déclaration hier du dirigeant de l'enclave espagnole située en territoire marocain.
Sur les quelques 72 000 personnes qui avaient franchi illégalement la frontière la semaine dernière, une grosse majorité est rentrée au Maroc. Mais plus d'un millier de mineurs se trouveraient toujours à Ceuta, peut-être même le double selon certaines ONG. Des enfants qui ne sont théoriquement pas expulsables et les autorités n'ont suffisamment de place pour les accueillir. Muriel Paradon.
Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de 2600% au-dessus de sa capacité critique, affirme même le dirigeant de l'enclave espagnole, Juan Jesús Vivas, qui lance un appel à l'aide. La situation est chaotique, confirme Jennifer Zupiroli de l'ONG Save the Children, surtout pour les mineurs qui ne sont pas pris en charge.
Il y a encore beaucoup d'enfants qui sont en dehors du système de protection pour les mineurs. Ils vivent dans la rue, sans accès à un abri, à la nourriture ou à l'eau. Certains sont accueillis dans des familles aux alentours de la ville. Mais nous savons qu'à Ceuta, c'est impossible d'avoir des capacités d'accueil suffisantes, car c'est une petite enclave, donc il faudrait un transfert vers d'autres régions le plus vite possible.
Selon la législation espagnole, les autres régions du pays sont tenues de contribuer à l'accueil de mineurs venant de zones en situation de tension. Mais certaines régions tenues par le Parti populaire de droite, alliées dans certains cas avec le parti d'extrême droite Vox, sont opposées à cet accueil.
Par ailleurs, le nombre de décès parmi les migrants qui ont tenté de rejoindre Ceuta la semaine dernière a augmenté. 77 morts, principalement au cours de noyades.
Et puis un autre bilan qui s'alourdit en RDC, cette fois celui de l'épidémie d'Ebola.
Plus de 3800 cas, dont 1751 décès confirmés. Hier, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé s'est rendu à Kinshasa en compagnie du directeur d'Africa CDC, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Ils ont rencontré le président Félix Tshisekedi pour faire le point sur cette épidémie, dont une possible propagation reste une inquiétude, notamment le long du fleuve Congo, d'autant qu'un bateau a été intercepté par les autorités à son arrivée dans la province de Kinshasa hier. Parti de Kisangani mi-juillet, l'un des passagers a présenté durant le parcours des symptômes proches de ceux d'Ebola. Ce dernier est décédé, le navire est sous surveillance.
L'actualité, Fabrice, c'est aussi l'armée soudanaise qui a annoncé hier avoir repoussé l'attaque menée par les paramilitaires des FSR au Darfour de l'Ouest.
L'armée qui mène des combats depuis plusieurs semaines dans ce secteur autour de la ville martyre d'El Jenina, capitale de cet état. Les affrontements ont eu lieu dans plusieurs localités. Un général qui conduisait les troupes des forces de soutien rapide dans la zone a été tué. Une évolution qui marque un nouveau revers pour les paramilitaires dans leur fief au Darfour, Ouda Ibrahim.
Les affrontements ont eu lieu sur ce que l'on appelle la ligne du Nord dans l'état du Darfour de l'Ouest. Les paramilitaires ont été repoussés par les forces conjointes soutenant l'armée au Darfour, précisément dans les zones de Bir Saliha et Hajar Marfa'in. Les assaillants ont subi des pertes. Mahdi Jabalmoun, récemment promu général de division, y a trouvé la mort avec plusieurs de ses compagnons. Ce général des FSR affirmait pourtant ces derniers jours qu'il prendrait... Kondo ende kamele Unebona di nyonga ni sefe Di kamele Ochando Di kamele Ochando
you want to feel love or if you want to give love, like, no expectations, man. There shouldn't be any expectations, you know?
Zero.
Yeah, there's no, like, formula either, you know, on how to love someone. There's no formula on how to love yourself either, you know? But for you to love someone, you gotta love yourself first.
In this world that we live in, there's two main motivating forces. It's love or fear. And you can't explain love.
Aujourd'hui, tout le monde écoute la radio. Et combien de gens savent finalement que ce droit et ce choix qu'ils ont, il est né de luttes, de gens militants qui, à un moment donné, ont été à l'encontre du droit pour acquérir plus de droits.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Come la signora, mi ho un ciao.
le tonu leke kanesu ne nya kesimya dokyo elabe nweke deka koye nyawo afinye pojijo neji leja ya
Y'a tellement de frères qui souffrent et qui sont muets que je suis obligé de causer. Excusez-nous si on vous casse la tête, si on n'a pas le moral, si on est le cheveu dans vos assiettes. Excusez-nous si on est vieux avant d'avoir l'âge. Excusez-nous si on était gosse avant d'avoir la rage. Excusez-nous si on est mal poli, si on devient ce qu'on voit, c'est qu'on comprend pas tout à fait ce qu'on vit. Si tu comprends pas tout à fait ce qu'on dit, alors excuse-nous. Et si tu crois comment, accuse-nous. Excusez-nous si on se casse la tête, si on se cache pas, si les mots qu'on dit on les mâche pas. Excusez-nous si on veut davantage, et puis excusez-nous, on en a marre de voir des frères en cache. Excusez-nous si on se répète, mais quand on regarde à la fenêtre, on voit dans celle d'en face qui reflète l'image du voisin qui regarde chez nous. Alors excusez-nous si quand on regarde ailleurs, on voit que nous. Excusez-nous si on est en mission, si vous comprenez pas, à la maison nous, on n'apprenait pas. Excusez-nous, élevés par des gens droits, on les a vus souffrir, donc la réussite on n'y croyait pas. Excusez-nous si on est l'endroit où on a grandi, autrement dit, puisque l'argent est roi. Excusez-nous si on en parle autant, souvent plus qu'on en a. Et excusez Tony Montana, excusez-nous si on a l'air mûr, on fait plus que notre âge, message de sage mais pas l'envergure. Excusez-nous si on a l'air sûr, si on a l'air dur, c'est qu'on vit pas assez à l'air pur. Excusez-nous, on s'auto-censure, réalité rature. En vrai on rêve tous de grosses voitures, en dire sans frais c'est dur. Dans ta Oxmo je t'assure, t'as pas saisi, on lève le fric de la Côte d'Azur. Excusez-nous si on sait pas quoi faire, nos vies des vols charter, qu'on a envie de changer en classe affaire. Excusez nos besoins à satisfaire, excusez la misère. Si vous êtes riche pour vous c'est salutaire, marre d'être les larbins dans vos sanitaires. On voit des choses bizarres, on aime la chaleur, on vit dans le blizzard. Excusez-nous de vous dire excusez-nous, et si vous pensez que c'est à cause de vous, alors excusez-vous, vite fait.
Il est 20h ici à Paris, 1h de moins à Londres. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur France 24. Bienvenue à tous pour la suite de cette édition spéciale. C'est une page de l'histoire du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde qui se tourne ce soir. La reine Elisabeth II est morte à l'âge de 96 ans, dont 70 ans de règne. Et après un règne d'une longévité exceptionnelle, Hervé, c'est une page de l'histoire du Royaume-Uni qui se tourne ce soir.
Michel Hubert and I'm the future reine d'Angleterre.
La reine d'Angleterre est déshéritée. Je veux bien prendre le relais, donnez-moi un CDD. La reine d'Angleterre est décédée. Je veux bien prendre le relais, donnez-moi un CDD. La reine d'Angleterre est décédée. Je veux bien prendre le relais, donnez-moi un CDD.